Bonjour, Marco, compte à rebours. À rebours, toujours pareil, des histoires, des légendes, des contes de toutes sortes et parfois des histoires courtes, c'est le cas aujourd'hui. Mon idée un peu comme, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une nouvelle année qui commence, hein, et donc je vous souhaite bonne année bien sûr, et je souhaite qu'on puisse tous arrêter de nous agiter, et oui ça nous ferait du bien, un soir par exemple sous un arbre ou sur un banc et goûter la beauté du monde, devenir sage enfin. Et ce vœu-là peut se réaliser, bien sûr, puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais lu des extraits d'un livre « Plus on est de sages, plus on rit ». Eh oui. Et d'ailleurs, j'y reviendrai à ce livre. Mais cette semaine, pour démarrer l'année, j'ai choisi un autre sage pour nous inspirer. C'est Anthony de Melo, un prêtre jésuite. Ah oui, ça donne pas l'idée qu'on va s'amuser follement. Eh bien, vous allez voir, il est d'origine indienne d'abord, il faut le dire, mais catholique. Il a passé sa vie à enseigner à des novices jésuites. Bon, il a été quand même très iconoclaste, partiellement désavoué par le Vatican, puis après réintégré, enfin bref. Mais ça a surtout été un formidable conteur, parce qu'il avait des oreilles pour entendre, il entendait des histoires, il les racontait. Et j'ai décidé de commencer l'année par des blagues, oui, des blagues. Attention quand même, Anthony de Melo, dans le livre qu'il a écrit, un livre de blagues, d'histoire, histoire d'humour et de sagesse, dit quand même ceci. Vous pouvez les écouter pour vous amuser, mais rien ne garantit qu'une histoire ou l'autre ne se glissera pas derrière votre système de défense pour faire explosion au moment où vous y attendez le moins. Voilà donc ce qui se prépare, une année explosive et joyeuse. Et les musiques que j'ai choisies pour accompagner ces courtes histoires, eh bien, c'est des musiques courtes aussi, et des musiques bizarres. Tiens, si vous voulez, vous pouvez jouer à deviner quels sont les musiciens. Commençons par quelque chose de très philosophique avec, bien sûr, Socrate. Eh oui, Socrate, vous connaissez sans doute, hein, un vrai philosophe, même l'image même des philosophes, et un véritable philosophe qu'il était. Il pensait que toute personne sage devait mener une vie frugale. Lui-même ne portait même pas de chaussures, rendez-vous compte. Mais pourtant, il tombait constamment sous le charme du marché. Tous les jours, presque, il s'y rendait et regardait les marchandises qui étaient exposées. À l'un de ses amis, qui lui demandait pourquoi il venait tous les jours au marché, Socrate dit « J'aime aller là et découvrir le nombre infini de choses sans lesquelles je suis parfaitement heureux. » L'ivrogne du village monta en titubant chez le curé, journal en main, et le salua poliment.
Le prêtre était ennuyé parce que l'homme, comme à son habitude, était un peu ivre. Il fit comme s'il n'avait rien vu. Mais pourtant, l'ivrogne était venu dans un but précis. « Excusez-moi, mon père, » fit-il. « Pouvez-vous me dire ce qui cause l'arthrite ?» Le prêtre ne réagissait pas à ces questions. Mais il répéta sa question, et il la répéta tellement bien que le prêtre finit par se tourner vers lui avec impatience et lui cria « Boire ! Boire ! Voilà ce qui cause l'arthrite. C'est ça ! Jouer, ça cause l'arthrite. Courir les femmes, ça cause l'arthrite !» Et alors, seulement, il dit « Pourquoi vous me demandez ça ?» « Eh bien, » répondit l'ivrogne, « parce que c'est justement ce qu'on dit dans le journal, que c'est ce dont souffre le pape. » Des histoires de spécialistes. Vous savez qu'il y a des experts, il y a des spécialistes. Eh bien, il faudrait peut-être s'en méfier. Écoutez plutôt. Un grand peintre demanda à un ami qu'il avait, un médecin, de venir voir ce qu'il pensait être sa meilleure production. Le médecin procéda à l'examen le plus attentif de la peinture, prenant le temps de s'arrêter à chaque détail. Plus de 10 minutes passèrent et l'artiste commençait à être anxieux. Il finit par lui dire « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Le médecin répondit « Ça a tout l'air d'être une double pneumonie. » Un homme reçut d'un ami une lettre courte, mais dont l'écriture était illisible. Bon, il s'est battu pour y trouver une signification, pour essayer de décrypter ces signes, mais il n'y arriva pas et il eut finalement l'idée d'aller quérir l'aide du pharmacien de l'endroit. Le pharmacien examina très attentivement la note pendant plusieurs minutes. Puis, il alla dans sa boutique, revint avec une grosse bouteille brune qu'il déposa sur le comptoir et dit « Ce sera 2 $, s'il vous plaît. » Un groupe d'étudiants était mécontent, très mécontent de la déplorable qualité de la bière que la cafétéria leur servait. Et alors quelques-uns d'entre eux conçurent la brillante idée d'en verser un peu dans une bouteille et d'envoyer cela à un laboratoire de l'hôpital dans l'espoir de découvrir ce qu'il y avait vraiment dans la bière. Le lendemain, ils reçurent une note qui disait « Votre cheval souffre de la jaunisse ».
The music was new, black, polished chrome and came over the summer like liquid night. The DJs took pills to stay awake and play for 7 days. They went to the studio and someone knew him. Someone knew the TV showman. He came to our homeroom party and played records, and when he left in the hot noon sun and walked to his car, we saw the Chooks had written F-U-C-K on his windshield. He wiped it off with a white rag and, smiling coolly, drove away. He's rich, got a big car.
On dit que lors de l'incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie, c'est vieux cette histoire, hein, on dit donc que lors de cet incendie, un seul livre fut préservé. Un seul. Et en plus, c'était un livre très ordinaire, ennuyeux, dépourvu de tout intérêt. Aussi, le vendit-on pour quelques sous à un pauvre homme qui savait à peine lire. Or, ce livre, tout ennuyeux et dépourvu d'intérêt qu'il fût, se trouvait probablement le livre le plus précieux du monde, car à l'intérieur de sa couverture, arrière, était griffonné en grosses lettres rondes quelques phrases qui contenaient le secret de la pierre philosophale, ce petit caillou qui avait la propriété de transformer en or pur tout ce qu'il touchait. L'écrit déclarait que le précieux caillou reposait sur une certaine plage, sur les bords de la mer Noire, parmi des milliers d'autres cailloux qui lui étaient tout à fait semblables, à ce seul détail près, que, tandis que les autres étaient froids au toucher, comme n'importe quel caillou, celui-ci était chaud, comme s'il avait été vivant. L'homme se réjouit de sa bonne fortune. Il vendit tout ce qu'il avait, emprunta une grosse somme d'argent qui devait lui durer un an et se mit en route pour la mer Noire. Il s'installa sur la fameuse plage sous une tente et entreprit la dure besogne de rechercher la pierre philosophale. Voici comment il s'y prit. Il soulevait un caillou. Si celui-ci était froid au toucher, il ne le rejetait pas sur la rive, parce qu'en agissant ainsi, il aurait bien pu soulever le même caillou des douzaines de fois. Non, non. Le plus loin possible, il le jetait dans la mer. Ainsi, chaque jour, pendant des heures, il poursuivit patiemment son travail. Soulever un caillou, estimer sa température, et youp, le jeter le plus loin possible dans la mer. Et ainsi de suite, sans aucune interruption. L'homme s'adonna à cette tâche durant une semaine, un mois, 10 mois, une année entière. Alors, il emprunta encore de l'argent et poursuivit sa recherche 2 autres années. Sans cesse, il recommençait. Soulever un caillou, le sentir, il est froid, le jeter dans la mer, le plus loin possible. Heure après heure, jour après jour, semaine après semaine. Toujours pas de pierre philosophale. Un soir, il soulève un caillou. Et voilà qu'il est chaud, au toucher. Mais l'homme, par la simple force de l'habitude, le jeta très loin dans la mer Noire. Le propriétaire d'un magasin entendit l'un de ses commis dire à une cliente « Non, madame, il y a des semaines que nous n'en avons pas et il semble bien que nous n'en aurons pas de sitôt. » Horrifié par ce qu'il entendait, il se précipita vers la cliente au moment où elle sortait et dit « Ce n'est pas vrai, madame. Bien sûr que nous allons en avoir bientôt. En fait, nous avons placé une commande il y a 2 ou 3 semaines. » Puis, il amena le commis à part et grogna « Jamais, jamais, jamais ! Ne dis jamais qu'il nous manque quelque chose. Si nous ne l'avons pas, dis que nous en avons commandé et que c'est en route. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'elle voulait, cette dame ?»« La pluie, » dit le commis.
Moi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Faudrait pas croire que je sois une paumée. Moi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Faudrait pas croire que je sois une ratée. Moi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Mais le seul ennui, vous voyez, c'est que je l'ai, c'est que je l'ai, c'est que je l'ai perdu, mon sac.
Anthony Demello, donc, dont nous lisons des histoires qu'il a recueillies, qu'il a récoltées, était jésuite, père jésuite, ça ne l'empêchait pas de s'exprimer sur des sujets comme le sexe. Qu'avez-vous fait à l'école aujourd'hui? Demanda un père à son fils adolescent. Oh, on a eu des leçons sur le sexe. Des leçons sur le sexe? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Bon, d'abord, il y a eu un prêtre qui nous a dit pourquoi on ne devrait pas. Ensuite, un docteur nous a dit comment on ne devrait pas. Et enfin, le principal nous a fait un discours pour nous dire où on ne devrait pas. La directrice des étudiants présentait les nouvelles venues au collège et jugea convenable d'aborder le thème de la moralité sexuelle. Dans les moments de tentation, dit-elle, posez-vous une seule question. Une heure de plaisir vaut-elle toute une vie de honte? À la fin de l'entretien, elle demanda s'il y avait des questions. Une des filles leva timidement la main et demanda « Pourriez-vous nous dire comment faire durer ça une heure ?»
Coucher avec elle pour le sommeil côte à côte, pour les rêves parallèles, pour la double respiration. Coucher avec elle pour l'amour absolu, pour le vice, pour les baisers de toute espèce. Coucher avec elle pour un naufrage ineffable, pour se prostituer l'un à l'autre, pour se confondre. Coucher avec elle pour se prouver et prouver vraiment que jamais n'a pesé sur l'âme et le corps des amants le mensonge d'une tâche originelle.
Vous avez sûrement reconnu la voix de Pierre Perret et le poème de Robert Desnos. Alors, des questions, on s'en pose. Un scientifique avait passé 10 ans à effectuer des recherches sur la possibilité de transformer l'eau en pétrole. Et il était persuadé que tout ce dont il avait besoin, c'était une substance donnée qui produirait la transformation désirée. Mais, nonobstant tous ses efforts, la formule lui échappait. Un jour, il apprit que tout là-haut, sur une montagne du Tibet, vivait un lama qui savait tout. Et sans aucun doute, il pourrait lui révéler la formule recherchée. Il y avait 3 conditions cependant. Il devait se rendre là-bas tout seul et le voyage était périlleux. Il devait voyager à pied et la route était difficile. Et enfin, si jamais il parvenait jusqu'au lama, il serait autorisé à lui poser une question, une seule. Pour remplir les 2 premières conditions, l'homme dut traverser de longs mois, d'efforts, de dangers. Et une fois parvenu en présence du lama, imaginez sa surprise quand il aperçut non pas le vieillard tout ratatiné et barbu qu'il s'attendait de rencontrer, mais une attrayante jeune femme plus jolie que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Elle lui sourit gentiment et d'une voix qui lui sembla toute céleste, elle dit « Félicitations, voyageur. Vous avez réussi à atteindre notre forteresse. Maintenant, posez votre question. » Et là, à son propre grand étonnement, il s'entendit demander « Madame, puis-je savoir si vous êtes mariée ?»
I'm not. officer anymore. You can leave me on the corner where you found me. I'm officer anymore. You can leave me on the corner where you found me. I'm officer anymore.
C'était un restaurant. Et dans ce restaurant, il y avait un bon client, un très bon client, et la direction faisait tout pour lui plaire. Aussi, lorsque l'homme se plaignit un jour de ce qu'on ne lui apportait qu'un morceau de pain avec son repas, le serveur lui en apporta tout de suite 4 tranches. C'est bien, dit-il, mais ce n'est pas suffisant, j'aime le pain, beaucoup de pain. Le soir suivant, on lui apporta 12 de tranches de pain. Bien, dit-il, mais vous me rationnez encore, hein? Même un plein panier de tranches de pain apporté le lendemain ne sut mettre un terme à ses réclamations. Alors, il eut droit à un énorme pain cuit spécialement pour lui, 6 pieds de long, 3 de large. Le gérant lui-même, avec l'aide de 2 serveurs, apporta le pain et le déposa sur une table voisine. Et puis, il attendit la réaction. L'homme examina le pain gigantesque et puis regarda le gérant en disant « Alors, on revient à un seul morceau ?» Voilà, compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui. C'était donc des histoires d'humour et de sagesse d'Anthony Demello. Si le livre vous intéresse, c'est aux éditions Albin Michel. Mais j'aurai l'occasion de vous en relire, on y reviendra. Eh bien donc, je vous dis à la semaine prochaine.